Il est 18h à Niamey. Les informations continuent en français sur le studio Kalangou. Présentation Rilet Soumana. Au sommaire, dans l'affaire opposant Bédir à l'État du Niger, le Conseil d'État a donné raison au gouvernement nigérien. À suivre les explications du directeur de l'enseignement secondaire privé sur la question. À Maradi, le syndicat national des enseignants contractuels du secondaire et celui des agents du Trésor sont à couteau tiré. Nous ferons le point sur les raisons de cette situation. En sport, une nouvelle mesure a été votée à l'unanimité hier par la FIFA. Elle porte le nombre d'équipes participantes à la Coupe du Monde de 32 à 48 à partir de l'édition 2026. Dans la partie magazine de ce soir, il sera question du bilan trimestriel relatif aux interventions des sapeurs-pompiers et les moyens mis à leur disposition. Bonsoir à tous. Dans l'affaire qui oppose le gouvernement nigérien à la Fondation Bédir, le tribunal de grande instance hors classe de Niamey a condamné l'État aux dépens le 4 janvier passé. Saisi à son tour, le Conseil d'État, après examen du dossier, a reconnu au gouvernement le 9 janvier dernier le plein droit de retirer l'autorisation d'exercice à la Fondation Bédir et de confier la gestion de ce complexe scolaire à une autre organisation. Les explications de Maidawaki Bouhari, directeur de l'enseignement secondaire privé, au micro de Moussa Hassan.
Quand on autorise à un privé de créer une école, cette autorisation peut être retirée à n'importe quel moment si le privé que ce promoteur-là ne respecte pas la réglementation prévue par le texte. Et c'est ça qui est arrivé à Bédir. C'est vrai, l'ONG a été dissoute dans son pays d'origine et il s'est trouvé que dans la dissolution de cette ONG, les anciens promoteurs ont pris des actes anti-réglementaires concernant la gestion de ces établissements-là. Et voilà pourquoi l'État a décidé de retirer carrément ces autorisations-là. Dans la foulée, il y a une autre fondation créé par l'État turc qui est venu et qui a introduit des demandes. Automatiquement, l'État leur a donné l'autorisation. Le Conseil d'État a reconnu le plein pouvoir de l'État à retirer tout agrément sur les privés que l'établissement ne respecte pas la réglementation en vigueur. Et lorsqu'ils ont porté plainte devant la Cour d'État, on a montré les preuves qu'ils ont violées. Et effectivement, ils ont violé par rapport à la décision de l'autre. Nous, on n'est même pas au courant de cette personne. On a appris comme vous à la télé que la justice a donné tort à l'État, alors que nous, on n'a même pas été saisis.
En bref, les élèves des collèges et lycées d'Agadez ont repris le chemin de l'école ce matin après deux jours de grève. Selon les deux parties, l'USN et la Direction régionale de l'enseignement secondaire, des solutions ont été trouvées aux différents points de revendication des élèves. À Maradi, polémique entre le syndicat national des enseignants contractuels du secondaire SINACES, en grève de 112 heures depuis hier, et le syndicat national des agents du Trésor, SNAT. Les contractuels évoquent, je cite, « l'arrogance du trésorier régional ». Les agents du Trésor, à leur tour, défendent leur responsable. Détail avec Mohamed Maman.
Dans son préavis de grève de 112 heures adressé aux autorités à la date du 3 janvier, le SINACES a égratigné le trésorier régional de Maradi en évoquant à propos de son comportement, je cite, d'insubordination, d'insolence, d'arrogance, voire même d'attitude inhumaine à l'égard de tous les enseignants contractuels de la région de Maradi. Selon Idrissa Salissou, secrétaire général adjoint du SINACES, le trésorier régional leur a toujours réservé un accueil peu cordial. Le point d'achoppement est le refus catégorique du trésorier de payer les pécules des contractuels bloqués par la liste de la Halcia. Idrissa Salissou estime que le trésorier n'a aucune raison de refuser de payer ses contractuels puisque, dit-il, une réunion à la primature a suspendu cette liste. Pour sa part, le syndicat national des agents du Trésor prend la défense de son responsable et a répondu au SINACES à travers une lettre en date du mardi 10 janvier. Dans cette lettre, il affirme que, je cite, « dès lors que la liste de blocage des enseignants contractuels absents et en doublon sur leur poste de travail est en plein traitement par les services, le trésorier ne peut procéder à un quelconque paiement ». Mohamed Maman, depuis Maradi, pour le studio Kalangou.
Suite aux problèmes d'insécurité qui prévaut dans le nord de la région de Tillabéri, l'usage des motos dans la dite zone ne sera plus autorisé à compter du 10 janvier 2017, de jour comme de nuit. La décision a été prise par les autorités régionales et concerne le nord du département d'Abala, Walam, Ayorou, Bani Bangou et Filengue. Le président de la République, Issoufou Mahamadou, se trouve en Arabie Saoudite depuis le 7 janvier pour un voyage officiel. Hier, le président était à Jeddah pour une séance de travail avec Dr Bendar Al-Hijar, président du groupe de la Banque islamique de développement. Lundi, le président de la République se trouvait à Riyad où il a rencontré les hommes d'affaires saoudiens et leur a évoqué qu'ils ont la possibilité d'investir dans plusieurs secteurs du Niger tels que les infrastructures, l'agriculture ou encore les ressources naturelles. Le préfet de Tchintabaraden de la région de Tawa dément l'information faisant état d'une insécurité alimentaire sévère dans certaines localités de son département, telles que rapportées par certains journaux de la place. Écoutons le préfet de Tchintabaraden, Abankawel Ilitinin, joint par téléphone ce matin par Asumana Shina.
Je suis surpris d'apprendre qu'il y a une insécurité alimentaire sévère dans mon département, notamment dans la commune rurale de Kao. Il faut reconnaître que le département du Tchintabaraden a accusé un déficit céréalier et forager par poche dans certaines zones du département. Mais ces déficits ne se traduisent pas jusqu'à la date d'aujourd'hui à une insécurité alimentaire. Et les prix des animaux sur les marchés varient entre 150 000 et 200 000 francs pour les vaches, entre 25 000 et 40 000 francs pour les moutons, entre 17 000 et 22 000 francs pour les chèvres. Sur la situation pastorale, on a encore du fourrage au sol que les animaux sont en train de brouter. Il n'en est rien de tout ce qui se raconte. En tout cas, en termes de sécurité alimentaire, c'est vrai. On ne connaît pas quelqu'un qui est malnutrit parce qu'il ne mange pas à sa faim. Nos centres de santé, jusque-là, n'ont enregistré aucun cas de malnutrition sévère ni aiguë.
C'était le préfet de Tchintabaraden, joint ce matin par téléphone par Asumana Shina. Le système d'information sur les marchés agricoles dans le bulletin hebdomadaire de la semaine passée annonce qu'actuellement les marchés des produits maraîchers sont marqués par une évolution diverse des prix des produits. Le point avec Habibou Garba.
Selon les ciments, on observe d'une part des diminutions de 10%, 6%, 4% et 1% pour le chou pommé, l'orange, la courge et la banane respectivement. Et d'autre part des augmentations de 7% pour le citron et la tomate fraîche, pendant que le prix moyen du poivron frais demeure presque constant. En ce qui concerne l'orange, le prix moyen national se situe actuellement à 347 francs CFA le kilogramme. Son prix le plus bas est collecté sur le marché de DIFA, il est de 189 francs CFA le kilogramme, tandis que le prix le plus élevé est de 500 francs CFA le kilogramme à Agadez. Quant aux tomates fraîches, le prix minimum à 155 francs le kilogramme enregistré sur le marché de Tillabéri et le maximum est observé à Agadez comparativement à la période de l'année 2015. Le prix moyen de la tomate fraîche affiche une diminution de 50%. Selon le système d'information sur le marché agricole, les prix moyens de la plupart des produits horticoles vont baisser du fait de la disponibilité progressive des nouvelles récoltes sur le marché suivi.
Défection dans les rangs du CPR Inganchi de Kassoum Mokhtar hier dans l'après-midi, c'est la présidente nationale de l'organisation des femmes du CPR Inganchi, Madame Barmou Balkissa, qui a quitté le parti pour rejoindre le moderne FA Lumana de Hama Amadou. Selon elle, c'est en toute responsabilité qu'elles ont décidé de quitter le CPR Inganchi pour adhérer au moderne FA Lumana et sans contrepartie aucune. Propos recueillis par Mokhtar Hamadou.
Ce choix désormais officiel se justifie par la claire conscience que nous avons. Car, comme vous le constatez, la tradition établie qui consacre plutôt le contraire, à savoir quitter l'opposition pour rejoindre la majorité, a été inversée. À compter de ce jour, nous demandons à celles et ceux qui hésitent encore de nous emboîter le pas pour contribuer au renforcement de la démocratie et de l'état de droit. Nous, combattants aux côtés de son Excellence Hama Amadou et de son merveilleux parti, sera désormais inscrit s'inscrit dans la dynamique du Front pour la restauration de la démocratie et de la défense de la République. En considération de tout ce précédent, nous décidons ce jour, mardi 10 janvier 2017, de quitter le CPR Inganchi pour adhérer au MODEM FA Lumana.
Nécrologie dans ce journal, El Hadji Ahmadou, président régional de la région d'Agadez du parti PPN-RDA, est décédé à l'âge de 71 ans dans la nuit du 10 au 11 janvier 2017. Militant de première heure du parti, El Hadji Ahmadou a milité aux côtés de Jori Hamani, père fondateur du parti. Il était président régional depuis 1993. En sport, le Conseil de la Fédération internationale de football association FIFA a voté hier à l'unanimité en faveur de l'initiative d'une Coupe du Monde à 48 pays à partir de l'édition 2026 au lieu de 32 pays. Qu'est-ce que cela change dans la configuration actuelle du football mondial et quel avantage pour l'Afrique? Réponse avec Alassane Kouzi Mahamadou.
Cette Coupe du Monde débutera donc par une première phase de 16 groupes de 3 équipes. Les deux premiers de chacun de ces groupes seront qualifiés pour des 16e de finale qui lanceront la phase à élimination directe. Le nouveau président de la FIFA, l'Italo-Suisse Gianni Infantino, explique, je cite, « Cela permettra à plus de pays de rêver. Nous dessinons la Coupe du Monde du 21e siècle. » Fin de citation. Autre avantage de cette nouvelle initiative, elle pourrait, selon la FIFA, lui rapporter jusqu'à 975 millions d'euros en plus par rapport à un mondial à 30 deux équipes. La répartition des places par continent sera officielle en mai prochain lors du congrès de la FIFA à Bahreïn. Mais déjà sur les 48 places, on parle de 16 places pour l'Europe contre 13 auparavant et 9 places pour l'Afrique contre 5 avant. Le mondial 2018 aura lieu en Russie et celui de 2022 au Qatar. Par contre, le point d'interrogation demeure sur le pays qui accueillera le mondial 2026 quand entrera en vigueur la nouvelle mesure de la FIFA.
Il est 18h passé de 12 minutes. À présent, place au magazine de ce soir. En cette période d'Harmattan, la population du Niger fait face à des incendies de plus en plus fréquents, une situation qui multiplie les interventions des services de protection civile, notamment les sapeurs-pompiers. Le directeur général colonel Bako Aboubakar nous dresse le bilan trimestriel des interventions et évoque aussi la question des moyens mis à la disposition des pompiers. Il au micro de Habibou Garba.
Effectivement, l'Harmattan est une saison qui est très propice aux incendies et la situation est quand même des plus préoccupantes ces derniers jours-ci avec des incendies dans les marchés, des incendies dans les domiciles et un phénomène global qui s'étend sur toute l'étendue du territoire national.
Avez-vous vraiment les moyens pour y faire face, pour intervenir comme il est?
La réalité des moyens par rapport à l'étendue du territoire, il y a des efforts qui ont été faits et qui continuent d'être faits pour nous équiper. En tout cas, nous avons enregistré 2015 à aujourd'hui l'acquisition des 12 engins incendie neufs et des efforts qui n'ont jamais été faits. Ces efforts-là, à eux seuls, ne peuvent pas suffire parce qu'avoir un engin incendie, il a beau être neuf, c'est une chose, mais il faut que quand même certaines choses suivent. Je ne vais pas vous faire cacher ce qui s'est passé à Dossou. À Dossou, ils avaient besoin d'un renfort d'un engin qui devrait venir de Birnengoré. Il se trouve que cet engin qui devait venir de Birnengoré lui-même a été victime d'un problème de carburant, prise d'air, qui a fait qu'il n'a pas intervenu convenablement au profit des Birnengoré même le vendredi. Nous avons remédié à la situation en les appuyant. Ça dit que la panne s'était aggravée puisqu'il y a eu prise d'air. Ils ont le carburant mais l'engin ne peut pas le démarrer pour qu'il parte et appuyer les pompiers de Dossou qui sont quand même à peu près à 40 minutes de route. Donc ce qui s'est passé pour Dossou est seulement et les efforts de l'État seuls ne suffisent pas. Les collectivités territoriales doivent faire des efforts. Ce ne serait pas bien pour moi de vous dire la quantité ridicule de carburant qui a été mise à la disposition de ces centres de secours-là pendant l'année 2016.
Quel est le bilan peut-on dresser entre octobre et aujourd'hui?
Alors, le bilan des incendies de ces trois derniers mois, nous avons 144 incendies au mois d'octobre, 176 au mois de novembre et 187 au mois de décembre. Vous voyez quand même l'augmentation par rapport à une augmentation globale de toutes les interventions qui sont de 1111 en octobre, 1204 en novembre et 1321 interventions au mois de décembre.
Est-ce qu'il y a eu des partenaires? humaines pendant ces interventions?
Bien sûr qu'il y a des pertes en vies humaines, puisque les pertes en vies humaines que nous avons enregistrées, au mois d'octobre, c'est 31 pertes en vies humaines. Au mois de novembre, c'est 62. Et au mois de décembre, c'est 30. Les blessés, ça aussi, de 777 en octobre à 854 en novembre et 861 personnes blessées au mois de décembre sur l'étendue du territoire national.
C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.